de télé, peine de vélo. Comme je disais, voilà, à tous les étudiants, si vous les séchez, il suffit un peu de se lever. Et après deux mois de rediffusion en montage, on va enfin reprendre
le direct
avec ce soir une émission, comme vous le verrez, plein dans le thème d'actualité, puisqu'on vous parlera de l'actualité, de ce qui s'est passé cet été à Marseille, des grandes avancées de ce grand projet merdique Euromerde et de l'urbanisme.
Et aussi un peu de ce qui s'est passé cet été au Val d'Isouza.
En Angleterre, peut-être un petit mot aussi.
À Marseille.
Oui, je vois.
Des luttes.
C'est vaste. Hein.
Et le début qui nous parle. Voilà, en tout cas, toujours là.
On parlera de tout.
Et de vous.
Et on vous rappelle le numéro, hein, quand même, au cas où, on sait jamais, sur cette cinquième année maintenant, c'est ça ? Sixième année, je suis perdu.
Ouais, c'est bon, on s'en fout. Cinquième année.
Moi aussi, je t'adore. Et voilà, vous voyez, on est de bonne humeur. Et
04 91 08 28 10
08 28 15.
Et voilà,
une des chaînes, une émission
radioactive.
Et voilà, pour ceux chaînes, la graine de gangrène.
Ceux qui n'ont pas le téléphone, bah, c'est 41 rue Jobin. Ils ont quelque chose à dire, il suffit juste de passer.
Et sinon, on a un mail.
Ouais, ça dépend qui.
C'est ndchaîne@no-log.org.
Avec bientôt un super site moderne.
Voilà, qui arrive. Et donc, comme vous a dit, apparemment, c'est pas certain qu'on soit là tous les lundis. On sait que vous regrettez déjà, mais nous encore plus. Et que, a priori, dans tous les cas, on pourra sévir sur les ondes de Radio Galère maintenant jusqu'à un peu plus tard le soir. Pour les moins fainéants.
Ouais. Bon, là, dans ce cas.
Salut à tous les Galériens et à tous les enfermés.
Alors,
pour commencer, on va vous passer notre jingle, histoire de faire bien. Allez, vas-y.
Jingle.
On a le super bonhomme sur la technique.
Super technicien, mais il n'est pas au courant. Bah, comme là,
il
commence mal l'année.
On va parler du nucléaire.
Carnet de correspondance.
Ah, il est pas pris là.
Non, mais c'est pas grave. Alors donc, ce qui s'est passé cet été.
Et aujourd'hui.
Et ce qui se passe encore d'ailleurs. Pluie noire sur Tokyo, pluie jaune sur le Japon. Suite aux explosions de la centrale de Fukushima Daiichi, des pluies de diverses couleurs tombent ici et ailleurs. C'est normal. Si, c'est normal. L'agence météo japonaise a reçu des centaines d'appels pour connaître l'origine de ces intempéries. Les fonctionnaires ont répondu formellement que c'était du pollen. Ils ont donc donné la même réponse que les autorités soviétiques donnaient il y a 25 ans aux victimes de Tchernobyl. Irradié, bonsoir. C'est la rentrée.
Bonsoir.
Vous êtes toujours exposés. Sur Tokyo, pluie brûlante. Avec un peu de chance, vous serez bientôt ébouillanté. Mais d'ici là, 6 mois après l'accident de la centrale japonaise, l'heure est à la commémoration. Alors, commémorons aussi, tant qu'on y est. Hiroshima, Nagasaki, Tchernobyl et les dizaines d'autres incidents dont les spécialistes de l'atome n'ont pas jugé utile de nous informer. Commémorons les 543 essais nucléaires effectués dans l'atmosphère en 50 ans. Et le reste. Commémorons, allons-y, dans ce monde morbide, souvenons-nous du pire pour croire qu'il est passé. Irradié, bonsoir. Si vous voulez bien, un petit tour de ce qu'ils oublieront sans doute de commémorer. Les premières pluies noires ont été observées à Hiroshima et Nagasaki en 45, quelques minutes après le bombardement. La pluie avait cette couleur parce qu'elle était mêlée des cendres venant de l'explosion. Les survivants l'ont bu, et à cause de ça, ils ont développé les mêmes symptômes que des personnes directement exposées à la bombe atomique. Ces derniers mois, il pleut sur le Japon, et les particules qui tombent sur le sol resteront radioactives durant des dizaines, voire des milliers d'années. C'est normal. À chaque fois, elles s'ajoutent aux précédentes. Empoisonnement inodore, incolore, invisible. Les territoires contaminés sont loin de se limiter à la zone d'exclusion décidée par le gouvernement, certains secteurs habités étant plus pollués que les zones interdites de Tchernobyl. Silence des autorités. Censure. diffusion de faux sites d'information. Les mots plutonium, corium disparaissent du vocabulaire scientifique. Le gouvernement japonais a recours à tout un assortiment de moyens pour étouffer la contestation. C'est normal. À cause de la trop grande radioactivité au sol, les autorités japonaises ont décidé de prendre les mesures non plus à hauteur du sol, mais au-dessus des toits. C'est comme ça qu'on réduit la radioactivité, en éloignant les appareils de mesure des sources émettrices. Et si tout ça ne vous semblait pas tout à fait normal, ne soyez pas inquiets. Les nuages ne passent pas les frontières. Le gouvernement français a donc réaffirmé son indéfectible soutien à l'atome. Fric, fric, toujours plus de fric et toujours plus de flic, c'est la rentrée. Irradiez, irradiez, souriez, demain sera pire.
Voilà, et donc c'est tombé bien pile poil dans l'actualité avec...
Le petit four qui a explosé ce matin dans le gare.
Voilà, ils ont mangé des petits fours à marre coulée ce matin. Et voilà, et donc ils en ont pas marre de couler. Après, juste...
Mais il ne faut pas s'inquiéter, apparemment il n'y a aucune fuite.
Non, il n'y a pas de fuite. Et puis en tout cas, s'il y a un nuage, il passera pas les frontières, celui-là non plus. Et trouvez aussi sur Internet, à la date du 10 septembre, c'est assez intéressant ce qu'ils ont appelé. Donc, et là, pour le coup, je veux me permettre ce vilain jeu de mots en private joke. Bon, la chasse aux boulons est ouverte. Et donc, depuis quelques temps, la lutte contre la société nucléaire se cristallise autour de la relance de l'atome dans l'Hexagone. Alors, si l'arrêt de la construction du nouveau réacteur EPR dans le Cotentin sera plus facile à obtenir par une courageuse décision politique, il y a un autre chantier dont il est fort à parier que sa déconstruction se gagnera sur le terrain, c'est-à-dire la ligne à très haute tension Cotentin-Maine. Après 4 ans d'un combat juridique qui arrive à bout de souffle, le permis de construire de 300 pylônes qui vont balafrer 3 départements de l'Ouest, le combat doit désormais passer par l'action directe. Les tentacules électriques sont le symbole d'une énergie destructrice et sans cesse imposée à coups de matraque. S'opposer à la gangrène galopante de l'électricité permet de reprendre goût à la liberté que le monde nucléaire nous a volée et montrer aussi à quel point ce système est fragile et vulnérable. En déboulonnant, pour l'instant, de manière symbolique les pylônes existants, l'objectif est d'établir un rapport de force capable de faire vaciller RTE, la gestion des lignes de THT, et de lui montrer que derrière chaque KWH, kilowattheure transportée, il cautionne un marché unique basé sur la spéculation financière et le pillage des ressources. Nous appelons donc à déboulonner partout en France les pylônes existants et surtout ceux en construction, afin, comme le disait EDF, de devoir mettre un flic derrière chaque pylône, ce qui ferait naître un vent de révolte incontrôlable et imposerait à la RTE et EDF de renoncer à leur projet nucléaire, à bas le nucléaire et sa société policière. Donc voilà, sinon en soi, c'était donc... vous pouvez retrouver ça sur la chasse au boulon, et où donc effectivement il vous explique un peu plus précisément qu'avec une clé de 46 et une clé à molette, il y a moyen de faire trembler ces pylônes.
Et le lien aussi notamment sur un site qu'on s'en sert beaucoup qui s'appelle Jura Libertaire, sur lequel vous aurez tous les liens et toutes les informations qui concernent ce qui se passe là-bas et ailleurs.
Et sinon, il y a aussi sur le site de basse intensité, il y a pas mal d'analyses qui sont faites sur le nucléaire. Et là, surtout sur la société qui produit cette énergie-là et qui a besoin de cette énergie-là.
Donc voilà, un spécial salut à tous les Iraniens. Alors, sinon, pour faire encore... je voulais peut-être parler de Vinci, à moins qu'on parle d'autre chose avant.
Non.
Vinci, déjà, juste de rappeler Vinci, donc propriétaire de ce magnifique parking, Porte d'Aix.
Donc Vinci, qui est une multinationale...
Donc savoir que... Que Vinci Construction et possède 80%, enfin construit 80% du parc français des centrales nucléaires, infrastructures hydrauliques, traitement des déchets, oléoduc, gazoduc. On pourra en reparler après un tout petit peu parce qu'on va faire un sujet sur Marseille.
On s'envoie pas une petite musique, non?
On n'a pas fini.
On
n'a
pas fini.
On finit l'agenda. Ah, là,
l'agenda. Voilà, on en reparlera juste un peu après, parce qu'à Montpellier, ils ont fait une action de péage gratuit contre Vinci, et c'était pour rappeler que à ceux qui auraient oublié que avant que ce putain de parking soit Porte d'Aix, il y avait un marché sympa. Voilà. Et donc Guillaume pourra tant qu'il veut appeler, essayer de virer sans gants tous les Roumains de l'Arc de Triomphe des Champs-Élysées à Paris. Il peut tenter tant qu'il veut bien sans gants de virer les Roms de la Porte d'Aix.
Et maintenant apparemment les Comoriens en ligne de mire aussi.
Avec et Comoriens en effet,
hein,
et
tout le monde va y
bien
passer.
Faire quelque chose. Et bah voilà, Guéant n'est pas bienvenu par ici. Donc on reparlera un petit peu du
parking. De ça dans tout le contenu de l'émission.
Sinon, le squat, pas plus tard.
Ah oui. Ouais.
Donc voilà, un squat qui était dans les Cévennes, qui était assez sympa. Et donc, qui était un endroit qui s'appelle le Prat Coustal. On fait une déclaration lapidaire que nous allons vous lire. Nous avons décidé de partir de Prat Coustal au vu de ce qui se tramait pour ce week-end. La mairie organise en effet avec les chasseurs un grand week-end de nettoyage du site pour aider les habitants à retrouver leur village. Deux grandes bennes de la déchetterie ont été amenées et après s'être fait cramer un camion et avoir reçu diverses menaces, on a préféré arrêter les frais et sauver les affaires qu'on pouvait. Alors merci à tous ceux qui nous ont soutenus et au plaisir de se recroiser. C'était le samedi 10 décembre. On va vous lire le track qui était 10 septembre.
Ouais.
Le track qui a été édité par la ville de Prat Coustal pour appeler les chasseurs à venir déloger les squatteurs.
Week-end pour l'avenir de Prat Coustal. Aider les habitants à retrouver leur village avec les amis d'Arfi, Lou Roupies et la participation gratuite des fils. 10 et 11 septembre 2011. Samedi 10, apéritif offert par la mairie. Repas champêtre, 12 euros. Découverte du hameau, nettoyage des alentours. Dimanche 11, apéritif offert par les roupies pour l'ouverture de la chasse. Pique-nique, repas sorti du sac, grand nettoyage d'automne, vin d'honneur. L'intégralité des fonds servira à entretenir et à préserver le site. À cette occasion, la municipalité mettra à disposition des sacs poubelles. Apportez tous vos gants.
Voilà, les gants et les sacs poubelles, c'était pour les squatteurs. Donc voilà, en tout cas, un salut spécial à tous les squatteurs du Prat Coustal qui sont donc en ce moment...
Et puis qui s'est fait aussi expulser une première fois, notamment avec énormément de moyens policiers, donc qui avait coûté assez cher. Et après l'expulsion, il y a certaines personnes qui avaient réussi à réoccuper le lieu, ce qui était plutôt pas mal comme pied de nez. Et en fait, depuis qu'ils avaient réoccupé le lieu, c'était assez tendu, il y avait beaucoup de contrôles sur les kilomètres à venir, et il y a eu beaucoup d'actes aussi de menaces, donc ils ont un des camions qui se sont fait brûler. Et bon, ça s'est épuisé avec le temps, et voilà, apparemment là... tout le populisme et la décomplexité des bons citoyens s'est mis en œuvre.
Citoyens et connards
pour
du
virer
coin.
Les
et
gens.
Connards du coin.
Voilà, donc
pour virer les gens, voilà.
Et on va peut-être passer à la rubrique anticarcérale, là,
ouais,
savoir qu'il y a pas mal de luttes qui se passent en ce moment dans les prisons.
Alors, notamment, il s'est passé pas mal de trucs, donc en France, bon, et ailleurs aussi, mais tout ça, on vous en reparlera donc dans la dernière émission du mois, parce que chaque dernière émission du mois sur une des chaînes. Et clairement consacré à ce qui se passe sur l'anticarcéral. Et juste là, un mot pour dire ce qui s'est passé donc, à la prison de Lyon-Corbas. Donc, la prison de Lyon-Corbas, c'est une de ces prisons high-tech, ultra-modernes, qui sont en train de construire un peu partout. Donc, très propre, très aseptisée. Et surtout, qui permet de casser un peu plus les détenus dans leur quotidien. Et voilà. Et à Corbas, donc, il y a eu de nombreux suicides depuis le début de l'année, comme dans toutes les tôles ultra-modernes. Où en fait tout lien social est annihilé par la structure en elle-même, malgré qu'ils aient des douches individuelles et compagnie, bref. Et là, début septembre, il y a eu 225 détenus qui se sont associés, ce qui est assez rare à ce point-là, et qui ont signé une pétition. Alors je ne vais pas vous la lire en entier, parce que on en reparlera surtout à la fin du mois. Mais voilà, il y a près de la moitié des détenus de la nouvelle tôle donc de Corbas qui ont signé diffusé dimanche 7 septembre, une pétition contre leurs conditions de détention. Alors, ce qui a été relayé dans la presse n'est qu'une petite partie de ce texte un peu plus long et qui montre bien l'étendue des problèmes dans cette prison high-tech et inhumaine. 6 personnes s'y sont suicidées ou sont mortes dans les conditions suspectes depuis le début de l'année. Voilà, donc on vous tiendra au courant par rapport à ça. C'est juste pour que le message passe dans toutes les tôles
que ça bouge
et qu'il est possible, malgré tous les problèmes qui sont encourus par rapport à ça, c'est-à-dire isolement, transfert, répression, de s'organiser et de dénoncer ce qui s'y passe.
Voilà.
Donc, en tout cas, notre soutien.
Sans amalgame, mais l'idée, je le dis, il y a 963 prisonniers qui s'évadent de la prison de Kasapa au Congo, dans la région du Katanga, où un minibus est entré dans la prison entre 10h30 et 10h40. Quand il s'est arrêté, des gens cagoulés armés sont sortis. Ils ont mis tout de suite à tirer sur le poste de garde. Voilà, des témoins rapportent qu'un militaire qui a essayé d'intervenir a été abattu. Les mêmes sources affirment que les renforts envoyés par l'état-major de la police sont arrivés à la prison une heure après l'évasion. On n'en dira pas plus parce qu'on n'en sait pas plus.
Voilà.
Bon, on va mettre peut-être une petite musique.
Une petite musique et on se retrouve après pour parler un peu de Marseille et son urbanisme à venir.
Sur ton blouson, on s'est rouge couleur de l'océan. Moi pour faire le malin, je chantais en italien. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au début de nos promesses. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au début de nos promesses. Chanson triste, un slip d'été. Je te tiendrai la main en rentrant au petit matin. Ce que j'ai pensé à toi, les nuits d'hiver où j'avais froid. J'étais un goéland en exil de sentiments. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses.
Des chaînes 88.4 Radio Galère.
Voilà, déjà on va vous reparler un petit peu de Vinci parce qu'on les a un peu dans le collimateur comme ils nous ont un peu dans le collimateur. Et voilà, vous savez tous qu'on a le parking le plus célèbre de France et de Navarre et qui se situe Porte d'Aix, qui après multes opérations diverses a été aujourd'hui réquisitionné par les militaires et leurs collaborateurs. À savoir qu'après y avoir accusé les pires maux, comme notamment faire un peu d'autoréduction, de récupération et de marché parallèle, qui malgré tout, à l'époque, coûtait un peu moins cher que de passer par les administrateurs de Vinci. À savoir que depuis, au moins, on peut remercier les gens qui sont occupés de ce parking pendant quelques jours, parce que depuis, il est passé à 3 euros, tarif pour tout le monde et pour toute la journée, ce qui était donc déjà permis de faire baisser les prix. En ces périodes de crise, c'est déjà quand même à signaler. Et surtout de ne pas oublier qu'avant qu'ils fassent ce parking, il y avait un marché, un petit marché aux puces, un petit marché parallèle, qui après moult tentatives d'expulsion de la Porte d'Aix, parce que c'est la vitrine, la porte, comme ils disent de Marseille, donc avait été envoyé, quand la rue d'Alger encore était remplie de quelques bâtiments, s'est promené tout autour de cette superbe Arc de Triomphe. Et une des façons dont ils ont trouvé de déloger ce petit marché aux puces, ça a été de faire un parking. Donc Vinci s'est immédiatement accepté de gérer. Après avoir fait le parking, donc quelques places et quelques coups de peinture sur le sol, le marché n'étant pas parti, ils ont mis... je pense que tous les Marseillais savent cette histoire, mais juste de rappeler un peu, quoi, qu'ils ont mis un tas de grillages autour, faisant passer cet endroit plus pour prison de Guantanamo que pour un centre-ville digne de ça. Et peu à peu, on réussit à un peu expulser ce marché. qui, suite à une gestion à la Vinci, Vinci, comme on dit, ils sont venus, ils ont vaincu, et donc ont quand même fini par abandonner parce qu'il n'y avait pas assez de soutien de
policiers,
soutien policier et soutien de la ville, quoi, pour pouvoir leur permettre de gagner du pognon tant qu'ils voulaient. Donc il avait été un peu réquisitionné, faisant parler donc effectivement du pire sur Marseille, où même les parkings étaient raquettés par la mafia. À tous ceux qui auraient pu s'approcher de là-bas à un moment où il y avait encore un peu de vie dans cet endroit, où restaient quelques humains, roms, arabes, comoriens et divers blancs,
des biffins de divers
européens, divers indo-européens et caucasiens de toute origine, et bah aujourd'hui c'est vide. Lavé, raboté, nettoyé.
En tout cas, c'est bleu.
Et c'est pour l'instant bien bleu, mais bon, Vinci aussi. Donc voilà, sur ce parking. Voilà, a été un lieu de résistance malgré tout ce qu'on peut penser. Certains pensaient que c'était peut-être pour l'argent, pour des raisons aussi ou ça. Dans tous les cas, n'empêche qu'il y a des gens qui ont un temps soit peu résisté contre Vinci. Et il se trouve que le 15 août, à Montpellier, d'autres gens s'organisent aussi contre Vinci, parce qu'il ne faut pas...
Vinci est partout.
Parce que Vinci est vraiment partout, pas seulement en France. On va vous le dire de suite et savoir que donc le 15 août, un péage gratuit a eu lieu au péage de Saint-Jean-de-Védas, près de Montpellier, dans le cadre donc d'une campagne lancée contre la multinationale Vinci, où une cinquantaine de personnes ont permis à de nombreux vacanciers sur le retour ou le départ de ne pas enrichir ces méchants. Durant une petite demi-heure, tandis que les affiches étaient collées un peu partout et que le tract suivant était distribué. Péage gratuit.
Départ en vacances, retour au turbin. Vinci, premier opérateur autoroutier en Europe, s'assure que vous ne soyez pas trop dépaysés. Le décor restera aussi insipide à l'arrivée qu'au départ. Partout, les mêmes aires de repos, les mêmes parkings, les mêmes péages, les mêmes boutiques terroirs. Un univers où rien n'échappe aux caméras et à la logique économique. Comme ses semblables, Eiffage, Bouygues, Bolloré et nombre d'autres entreprises, Vinci modèle le monde selon ses intérêts, masqué derrière l'image du développement durable et du respect de l'environnement. Chaque espace doit avoir son orientation économique, de la zone industrielle à la plaine céréalière, en passant par la région montagneuse. Sa détente pour riches, son énergie bois et son gaz de schiste. Quand chacune des régions devient spécialisée, un schéma global de transport à grande vitesse s'impose et quadrille l'ensemble. Ligne très haute tension, ligne à grande vitesse, ligne ADSL, fibre optique, autoroute, ceinture périphérique, métro, tramway, port maritime, aéroport, etc., que permettent et qui alimentent d'autres grands projets tels que complexes nucléaires, barrages hydrauliques, terminaux pétroliers, mines, etc. Mais leur mainmise ne s'arrête pas à ces infrastructures qui avancent à grands coups de bulldozer. Derrière ces moultes activités, des milliers de personnes sont exploitées. Maçons sans papier, arrêtés sur le chantier d'un centre de rétention. Travailleurs des mines d'uranium qui ramènent la radioactivité dans son foyer. Intérimaire enfermé dans une cabine de péage et qui n'a guère les moyens de partir en vacances. Les réaménagements se font aussi au détriment de populations qui se retrouvent à devoir céder leur place. Les pauvres sont chassés des centres-villes et cloisonnés dans les périphéries. Les territoires, urbains ou ruraux, où ils subsistent, sont accaparés et bétonnés pour plus de profit. Pour de telles réalisations, la recette est toute trouvée. Les partenariats publics-privés. Ils permettent d'allier la légitimité démocratique, la maîtrise de l'ensemble géographique, les financements publics et les forces de l'ordre de l'État au savoir-faire, réseau et réalisme commercial des grands groupes privés. Ceux-ci prennent en charge l'ensemble des projets, de la construction à la gestion. En 2009, le groupe Vinci participe à lui seul à 240 000 chantiers dans plus d'une centaine de pays. Ses projets et ceux de ses concurrents suscitent parfois des résistances locales.
Alors, par exemple, à Cadarache, dans la région PACA, il y a eu la construction d'un réacteur expérimental de fusion nucléaire, ITER, en partenariat avec Areva. À Notre-Dame-des-Landes, dans le Pays de Loire, le projet d'un nouvel aéroport international écolabellisé suscite de nombreuses protestations. Alors, il y a des terres occupées, des actions de sabotage, des manifs, etc. En Val d'Issouza, plusieurs tunnels doivent être creusés pour laisser passer le TGV Lyon-Turin. À l'heure actuelle, les policiers et militaires tentent de défendre le chantier contre des centaines de personnes déterminées à stopper le projet. À Khimki, en Russie, les opposants à la construction de l'autoroute entre Moscou et Saint-Pétersbourg sont victimes d'une répression féroce. torture, menace, assassinat, attaque des forces de l'ordre et de milices fascistes. Vinci n'est qu'une des nombreuses pierres du système capitaliste. La cadence à laquelle leurs projets et leur fonctionnement quotidien écrasent nos existences n'a d'autre frein que ceux que nous leur imposerons. Nous ouvrons ce jour les barrières d'un péage pour mettre un grain de sable, certes modeste, dans les rouages du monde qu'ils aménagent. Nous invitons ceux qui ne se résignent pas à agir de toutes les façons contre cette machine à broyer. Puisque ce coup-ci, vos euros ne tomberont pas dans les poches des actionnaires de Vinci, ils peuvent, si vous le souhaitez, servir à alimenter une caisse de solidarité avec les personnes qui se retrouvent dans les griffes de la répression.
Et voilà, donc juste de rappeler qu'à quel point tout s'entrecoupe, quoi, entre nucléaire, urbanisme et économie. Donc il faut rappeler que Vinci concession, c'est les parkings, les autoroutes, les tunnels, les ponts, les métros, les trains, les aéroports et l'équipement public. Aussi les campus, les stades et les hôpitaux, que Vinci Construction, c'est centrales nucléaires, 80% du parc français, infrastructures hydrauliques, canaux, barrages, traitement des déchets, incinérateurs, stations d'épuration, canalisation, oléoduc, gazoduc, stockage de combustible, prison, bureaux, logements de standing. De savoir que Vinci Énergie, c'est des parcs éoliens, du photovoltaïque, du transport de l'énergie produite, technologie, communication, gestion urbaine, vidéosurveillance, éclairage public, publicité. Eurovia, c'est des infrastructures routières et ferroviaires, carrières. Tout ça avec des espèces de multinationales qui se recoupent toutes quand vous regardez les organigrammes de ces compagnies avec Cofiroute, Sogea, Escota, Cegelec, Axian, Asthenium, Autokim, Dumez, Via France, Saint-Trap, Tunzini, Dodin, Camontinet, Gide, machin, c'est même pas la peine de les citer, l'eau, la piscine, Hydro Plus. Bon, voilà, toute une bande de crapules qui s'occupent, et donc les autoroutes du sud de la France. Voilà.
Ils et nous polluent. Les maîtres du monde.
Et jusqu'au Val di Susa.
Et jusqu'au Val de Susa, donc on peut parler, ou peut-être une petite.
Peut-être une petite
tranche
musique.
De musique. Pause après
ouais, cette petite musique. Ouais.
Une petite tranche de musique.
Des chaînes Radio Galère, c'était les profs de skid.
Grenoble qu'on adore.
Et c'est un morceau qui s'appelait La Ballade de Mélodie.
Voilà. Et donc, je vais essayer de vous parler de Vinci sans trop m'envoler, parce qu'effectivement, ça tient à cœur. Savoir de Val de Souza, je vais y arriver.
C'est lié, quoi.
C'est lié, voilà. C'est
même logique, en tout cas.
Voilà, tout avant, c'est ce fameux TGV Lyon-Turin. Et donc, à savoir que le Val de Souza est la région qui résiste aujourd'hui sous le label Notav. Voilà, c'est TAV, c'est Treno di Alta Velocità, le TGV chez les Italiens. Savoir que ce que ça peut intéresser, c'est jamais qu'à 30-40 km de la frontière française au niveau de Briançon et du Mont-Genèvre. Donc, c'est assez facile d'y aller et qu'il y a déjà plus de 10 ans de lutte qui sont passés là-bas. À savoir qu'un peu avant les années 2000, ils ont décidé donc de faire ce TGV pour soi-disant. Le flux qu'il y aurait entre l'Italie et la France.
Flux de marchandises.
Et donc au départ, un flux de marchandises qui pour l'instant passe pour une partie par la route avec des camions et pour une autre partie, ce qui doit arriver en France arrive à Toulon ou à Marseille et ce qui doit arriver en Italie arrive à Gênes, à Genova. Et dans tous les cas, pas besoin spécialement de passer. Donc comme certains disent, c'est deux capitalismes mûrs dont on connaît très bien les échanges, que ce soit en termes de matériel ou de personnes. Et donc, qui a priori se ressemble plus à une escroquerie au fonds public et au fonds européen pour ramener de l'argent plus qu'à un projet économiquement viable. À savoir qu'effectivement, aujourd'hui.
Et que même si ça l'était, on ne serait pas d'accord non plus. Quoi.
Et que même ouais. si ça l'était, en plus, en tout cas, c'est dénoncé au moins au départ comme ça, en disant que ça ressemble plus à une grosse escroquerie. Parce que pour l'instant, il faut donc 4h30 pour rejoindre Paris et il n'en faudra que 3h30. Donc, c'est pour gratter une heure. Ça coûte quand même. Dans un premier début, la modique somme de 70 millions d'euros à la communauté européenne. Et pour finir, qui devrait tourner autour des 4 milliards. Donc à savoir que c'est tout le monde qui paye, parce que l'argent, c'est jamais vraiment le leur. Et que donc dans les années 2000, ils ont commencé à se battre contre ça, parce qu'au Val de Souza, ils ont déjà eu à subir un premier train, et puis surtout une autoroute avec des viaducs énormes, qui a plus ou moins défiguré la région de Val de Souza. Alors bon. Personnellement, je ne trouve pas ça spécialement laid, leur viaduc. S'ils avaient été un peu plus décorés, on dirait des queues de dragon. Mais là, pour l'instant, ça ressemble vraiment à des autoroutes et pas à des queues de dragon. Et donc, à cette époque-là, dans les années 70, on leur avait promis quelques compensations. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait facilement acheter avec une nouvelle école, un nouvel hôpital. Et qu'effectivement, ça attirait du travail pour cette région-là. Qui à l'époque ne vivait pas particulièrement du tourisme, malgré que c'est une très très belle région.
C'est toujours le même chantage, en tout cas, économique, avec des populations.
Et ce chantage a fonctionné. Il se trouve que, bon, en retour, encore une fois, les compensations, ils se les ont mises, voilà, sans vulgarité. Et donc, pas d'hôpitaux, pas d'école. Ils se sont dit, on s'est fait arnaquer une fois, pas deux. Ça, c'est vraiment pour les gens, les Valsuséens, ceux qui habitent là-bas, et qui ont décidé que, voilà, à un moment, ce notave, ils n'avaient pas tellement envie qu'il passe là. Il devait passer à ce moment-là du côté de Venaos. Et donc, il y a eu 5 années de lutte, quand notamment après une escroquerie type Euromède, c'est-à-dire que normalement, il y a de la modération, il y a de la médiation, il y a de la discussion pour expliquer ce qu'ils vont faire et voir si les gens sont d'accord ou pas d'accord. En fait, avec le même type d'escroquerie qui se passe à Euromède, les médiations, en fait, finalement, n'ont pas lieu. Ceux qui ne sont pas contents, on ne leur parle pas. Et donc, du coup, à chaque fois, en disant plus ou moins, tout le monde est d'accord. Il s'est trouvé que le trou allait occasionner notamment bruit et fureur, c'est-à-dire c'était 20 ans de bruit et de poussière. Avec des camions à tout va, ce qui s'est déjà passé donc 70 ans avant avec les autoroutes, et que dans la montagne ils ont trouvé de l'uranium, de l'amiante et donc et plus de connaissances sur les micro-poussières, et donc ils ont décidé de dire non, dire on veut pas de ce TAV, donc no TAV. À ce moment-là, ils ont quand même persisté, insisté jusqu'en 2005 à vouloir le faire, jusqu'à ce qu'il y ait une énorme mobilisation qui ait lieu, avec des premières manifs comptant 5000 personnes, puis 15 000, puis 50 000,
30 000 dès le début.
Et donc, dans tous les cas, avec, beaucoup de gens donc, de la région et surtout beaucoup de gens du Val de Souza qui sont mobilisés. Là, pour le coup, on peut dire une vraie mobilisation populaire. Au vu de l'ampleur du mécontentement et notamment d'une action ultra-violente de la police contre les Valsuséens, il y a eu préemption sur le terrain pour bloquer ce chantier par la loi parce qu'effectivement, il y avait eu des actes d'un côté de sabotage fait par les gens, et de l'autre côté, des actes violents faits par la police. Il s'est trouvé qu'ils ont finalement tout simplement déplacé, après 2005, le chantier dans une autre partie de la vallée, donc du côté Chiomonte, et côté vraiment Souza, Val de Souza, où là, du coup, la mobilisation a redémarré. À savoir, pour faire un peu rapide, que bon, pendant des années, il y a des gens qui sont mobilisés à essayer d'informer de ce qu'allait se passer et qui n'était pas dit par les constructeurs de ce TGV et des grosses entreprises qui s'en occupaient. Ce qui fait que peu à peu, la population a pris connaissance de la réalité de ce chantier et s'est à nouveau mobilisée, fort de la victoire de Venaus, contre le chantier de Chiomonte. Il s'est trouvé que les sommes d'argent qui devaient être débloquées par l'Europe étaient soumises à quelques conditions, notamment le départ du chantier à partir d'une certaine date, qui était celle du 30 juin de cette année, et que du coup, une partie des gens ont décidé d'occuper le terrain, comme ça s'était passé à Venaus, le terrain où devait commencer le chantier. Et donc ça, c'était à Chiomonte, et dans une petite partie qu'ils ont décrété la Repubblica Libera de Magdalena, qui était donc un espèce de spot occupé par les gens. Le 27 juin, donc 3 jours avant la date butoir du début du chantier pour avoir le droit de toucher les 7 millions d'euros, ça a été expulsé, pour le coup avec perte et fracas, une expulsion qui a duré plusieurs heures, où ils s'étaient retrouvés pour résister entre 5 000 et 10 000 personnes au départ, pour pas jouer trop avec les chiffres. Une résistance de plusieurs heures où les flics, après avoir gazé massivement, ont expulsé le lieu. Ça a donné place à une bagarre de plusieurs heures dans la forêt au petit matin, pour que finalement, voilà, à 17 heures, les yeux remplis de gaz, les gens rejoignent la ville de Chiomonte, où entre-temps, toute la vallée avait été bloquée, de Turin jusqu'à Chiomonte, les trains, les autoroutes, tout ça bloqué par la population, les camions ont été bloqués pendant toute une journée entière pour protester contre cette expulsion. Au-delà de ça, les flics ont pris place et ont barricadé tout l'espace avec des barricades qui étaient pour le coup encore un peu plus hautes que celles des bloqueurs précédents, et c'est protégé, donc le chantier est protégé par une armada de policiers, de carabiniers et d'anti-émeutes. Une semaine plus tard, un grand rendez-vous a été donné, c'était donc le 3 juillet 2011, un grand rendez-vous a été donné pour tenter de reprendre donc la Repubblica Libera, c'est-à-dire le terrain où va commencer le chantier, donnant lieu à une bataille rangée de plusieurs heures, assez violente, où il y a eu énormément de policiers blessés, énormément de gaz qui a été envoyé, à savoir en plus, bon, un détail, mais que c'est une région de vignes, et que... Il y a tellement de gaz qui ont été envoyés qu'à savoir que pour l'instant, les vignes, elles sont condamnées pour plusieurs années. L'odeur y est encore, celle du lacrymogène, et la résistance continue. Il s'est trouvé que donc au début juillet a été organisé un campement, juste au pied, au plus bas du chantier, pour essayer de continuer à faire exister la résistance notable, donnant encore lieu à pas mal de luttes, pour certaines violentes, pour d'autres plus politiques, avec beaucoup de... d'échanges, beaucoup de liens sociaux, beaucoup de réunions, beaucoup de rendez-vous où toute la région sent très concernée. C'est un moment de lutte assez exceptionnel pour ceux qui ont pu y aller, parce qu'effectivement c'est un mélange de gens, un mélange de genres, mais vraiment une volonté farouche de ne pas se laisser faire. Notav. Et se dit là-bas, ça radoura, c'est-à-dire que ça va être dur, et c'est dur, et c'est dur, qui fait que suite à ça, le chantier est toujours en marche, les barricades de la police sont toujours là, les policiers les défendent toujours, et les manifestants continuent à résister. Pendant le mois d'août, effectivement, un deuxième camp a été organisé, cette fois-ci plus près du chantier, un peu plus haut, laissant encore place à quelques nuits de bagarres et quelques journées de contestation. Beaucoup de discussions, toujours un peu quelques tentatives de quelques politicards de récupérer l'affaire, parce qu'effectivement, c'est une mobilisation importante. Et dans une Italie fragile, au bord du gouffre, les politiciens sont là, mais n'empêche que ça continue à résister de façon hors organisation, hors parti, hors tout système, on va dire, démocratique ou électoraliste.
Et malgré tout le panel de gens avec leurs expériences différentes.
En sachant qu'effectivement, il y a quand même des organisations italiennes, non pas des partis, des organisations italiennes qui ont l'habitude de résister et de s'organiser. Contenté par tous les moyens nécessaires, by any means necessary, par toutes les méthodes possibles, de bloquer ces voilà. Et donc, à savoir que ce week-end, il y a eu encore un grand rendez-vous, là, le 8, 9, 10 septembre, 11 septembre, pour tenter de résister. La tâche est ardue. Entre-temps, quelques camions d'Italcoge ont brûlé, quelques bulldozers sur le chantier ont brûlé aussi. Il faut savoir aussi que du coup, aussi, des camions, des compagnons ont brûlé, mis en feu par la police, on imagine, et que la résistance s'organise. comme ce qui se passe à Nantes. C'est quelque chose d'assez étonnant. Il faut y aller, il faut se déplacer. Il faut aller là-bas et suivre. Donc,
c'est par rapport à l'aéroport là-bas.
De Nantes à Val-de-Souza, c'est un peu le même principe. C'est à un moment la population en a marre de se faire saccager autant sa région que ses envies que et surtout ses décisions. Donc voilà, c'était juste un petit mot pour appeler à tout le monde à suivre cette lutte. Donc sur Notab, vous pouvez trouver au Jura Libertaire et tous les sites concernés une résistance qui est des plus belles.
Je vais peut-être juste donner quelques adresses où les gens ils peuvent avoir plus d'informations sur l'histoire de cette lutte. Donc il y a un texte que vous pouvez retrouver sur le site de infokios.net qui est une traduction d'un texte italien qui s'appelle « À toute allure ». Sinon, il y a un autre texte qui s'appelle « Un poignard et un talisman » qui est aussi traduit de l'italien et qui est sur le site de Non Fides. Sinon, il y a « Homme pressé, homme mort ». Donc ça, c'est sur le site de CQFD. Et donc, voilà, c'était pour ceux qui voulaient un peu plus creuser sur cette lutte.
Et puis, il y a des chances qu'on en reparle en plus dans les semaines à venir.
On risque effectivement de voir, essayer de faire pour tous nos auditeurs et amis marseillais un interview de gens là-bas, essayer de peut-être faire un dossier un peu plus épais sur Val-de-Souza parce que, voilà, encore une fois, on vous le répète, à ceux qui ont un peu de temps, il ne s'agit pas seulement que d'aller se battre là-bas avec les Condés, il ne s'agit pas seulement d'aller là-bas faire acte de présence. C'est vraiment un événement intéressant avec des discussions intéressantes. Il n'y a pas forcément besoin de savoir parler italien. Il y a quelques Français qui sont par là. Voilà. Donc toute notre solidarité dans tous les cas à tous ceux qui se sont, qui vont et qui se seront battus et qui se battront encore contre le TGV, le TAV italien.
Chaîne 88.4, Radio Galère,
MD
j'ai un écho
dans l'espace
de
sur orbite.
Ouf.
Nous sommes sur orbite.
C'est bon,
nous avons
je viens d'atterrir sur la planète. Et
bonjour,
c'était un
Spectra.
Morceau de Fugazi, Waiting Room. Et donc, on en vient à la deuxième partie de l'émission, donc, où on va un peu plus parler de ce qui se passe sur Marseille. Mais avant tout, déjà vendredi soir, il y a un concert de soutien aux inculpés de l'incendie du centre de rétention de Marseille, qui a brûlé en mars dernier. Suite à cet incendie, il y a 6 retenues qui ont été incarcérées parce qu'ils ont été soupçonnés d'avoir participé à cet incendie. Au cours des interrogatoires et au cours des passages devant le juge d'instruction, la justice a tellement foutu la pression que apparemment il y en aurait plus ou moins 4 qui se seraient bien déchargés sur 2 particulièrement. Et donc les 4 ont été disculpés et les 2 sont en attente de leur procès. Ouais. Donc il y a un concert qui est organisé en soutien pour essayer et d'une de récolter un peu de sous et de 2 de faire parler de cette histoire. Ça se passera à Entropie, c'est à 20h.
Entropie, donc c'est au 1 rue Consola, on le répète, au réformé. Et sachant, juste pour revenir, que donc sur les 2, ils ont été libérés mais sous contrôle judiciaire. Et que donc c'est les 2 qui risquent de passer en procès et de manger une peine assez sévère, comme ça s'est vu quand le centre de rétention à Vincennes
ou de Bordeaux.
Ou de Bordeaux ont cramé, pour l'exemple, ça passe pas, vous l'imaginez bien. Et voilà, donc il y a ce concert qui est organisé pour ça, parce qu'il y a
sachant
besoin d'énormément de soutien.
On n'a pas la date du procès, que ça peut être en 2012, en 2013, on ne sait pas. Ouais. Que d'ici là, ils risquent d'avoir un contrôle judiciaire et qu'ils sont toujours sans papier. Donc une situation assez inconfortable, un risque de double peine et voilà. Et donc il va falloir payer des avocats, il va falloir tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de sous.
Il va falloir s'organiser et puis il va surtout aussi en falloir en parler pour qu'il y ait vachement de monde qui se mette derrière ça. Et voilà. Voilà. Donc on le répète, c'est vendredi.
Ouais, vendredi à Entropie,
rue Consola. Et c'est à partir de 21h.
21h.
Bien sûr, le prix c'est libre et maximum de solidarité. Et voilà, il y aura plusieurs petits groupes qui viendront.
Il y aura Singe des Rues, il y aura Ethnopère et ça.
Ethnopère et ça, je suis un groupe punk antique, je crois, ça, c'est ça, et ça commence comme ça. Et...
un groupe marseillais.
Et un DJ à la fin, non?
Ouais,
Didi Cara qui sera sur place pour nous faire danser toute la nuit.
Et sinon, on continue dans les rendez-vous. Toujours tous les lundis, il y a l'Assemblée contre la précarisation qui se tient cette fois à Mille-Babord. C'est toujours rue Consola, mais je ne me rappelle
61.
Plus du numéro. Ah, c'est 61.
Ou 60, enfin bon, c'est rue Consola, quoi.
Donc voilà.
Il faut qu'on soit là.
Plus haut.
Il faut qu'on soit là.
Et sinon, dimanche.
Samedi.
Non, c'est dimanche le pique-nique.
Samedi.
Dimanche.
Ah ouais, samedi.
Moi, on m'a parlé de
samedi.
Dimanche. Hein.
Ah, en fait, ça a changé.
17 septembre.
Il y en a un qui suit, heureusement. Donc, il y a un pique-nique. Il y a un pique-nique organisé
en fait.
contre la présence policière et contre le nettoyage qui a été fait porte d'Aix. Stop aux agressions des quartiers populaires, dehors Euromed et sa police. La place est à tout le monde. Pique-nique géant, porte d'Aix, samedi 17h à 13h pétante. Amène ton sandwich.
Donc voilà, porte d'Aix, c'est porte d'Aix. Et c'est à 13h et c'est le samedi 17 septembre.
En sachant que donc c'est dans cette fameuse porte d'Aix qu'il y a ce fameux parking de Vinci.
Donc voilà, on invite tout le monde à y venir largement. Ce sera le lendemain de ce concert. Voilà, c'était à 13h. Voilà, vraiment. Et plus il y aura de monde, mieux ça sera, quoi. Arrêtez de voir cette porte d'Aix comme nous ne l'avions jamais vue avant.
Sachant qu'avec le nombre de flics qu'il y a justement, c'est que dès que tu mets un pied maintenant sur l'esplanade, ça devient un peu...
L'enfer.
L'enfer, voilà. Et que du coup, ça serait de nous interdire l'esplanade et que... Voilà.
En sachant qu'ils ont profité de l'été, là, pour un peu mettre les bouchées doubles à Marseille en mettant de plus en plus de keufs et notamment en nettoyant la porte d'Aix, en virant les Roms qui squattaient sur la porte d'Aix, en virant les Tunisiens qui étaient là aussi. Et voilà, et donc c'est pour ça que ce soir, on a décidé de faire un petite émission sur l'urbanisme, et notamment l'urbanisme à Marseille.
Et bah, comme rien n'est fait, comme rien n'est fait, nous, NDG, on fait quelque chose. Voilà.
Et peut-être on va commencer par un petit montage qui explique les liens étranges entre l'urbaniste et le flic.
Entre 1853 et 1870, un certain baron Haussmann se lance dans le réaménagement de Paris, officiellement pour augmenter le prestige de la ville et lui offrir sa vraie stature de capitale européenne. En réalité, l'objectif de ces grands travaux n'est pas tant d'accroître le rayonnement de la capitale que de faciliter le contrôle de son peuple. Napoléon III, impressionné par Londres, a pensé sa ville idéale avant même son coup d'État. Une ville sécuritaire, contre-révolutionnaire. Pour asseoir la dynastie des Napoléonides et éviter le tragique destin des Bourbons et des Orléans, il faut étouffer dans l'œuf une nouvelle révolution, tirer les leçons des insurrections de 1830 et de 1848. C'est donc sous couvert de prestige qu'Haussmann applique son urbanisme en véritable stratège militaire. Il relie les casernes au centre de la ville, détruit les logements ouvriers pour écarter les classes laborieuses, annihile les foyers d'insurrection, remplace les pavés par du macadam, éventre le vieux Paris, quartier des émeutes. Il éloigne les pauvres des édifices publics et surtout, il perce les ruelles de grands boulevards aux dimensions jusque-là inconnues, où des barricades ne peuvent résister à une charge de cavalerie ou à un tir d'artillerie. En parallèle à cet urbanisme militaire, esthétique et hygiéniste, la ville se subordonne aux besoins du commerce. Le capitalisme s'y étale sans complexe. C'est la curée et l'apparition des grands magasins. Le Corbusier, qui voyait en Haussmann le premier urbaniste moderne, n'imaginait lui-même que cette alternative, l'architecture ou la révolution. Aujourd'hui, cette quête de la ville sécurisée obsède encore les urbanistes. Les cités sont façonnées pour ceux qui les dirigent, l'urbanisme étant toujours et définitivement un outil du contrôle social. La banlieurisation engagée au XIXe siècle a connu son apogée avec les grands ensembles, la ville, naturellement consacrée au capitalisme, devenant le terrain de la ségrégation sociale et de la fragmentation fonctionnelle de la vie. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes logements sociaux que l'on veut résidentialiser, dont on veut redresser l'image et qui continuent d'être des zones d'expérimentation urbanistique. Ainsi, le credo des urbanistes, c'est l'espace défendable. L'espace urbain doit être sécurisant et la ville façonnée afin d'éviter la délinquance et de faciliter sa répression. Il faut limiter les cibles potentielles, empêcher les actions de délinquance et favoriser le contrôle partagé des lieux entre leurs locataires. Dans cette optique, architectes et urbanistes s'inspirent de ce qu'ils ont déjà élaboré pour l'univers carcéral. À l'heure où les prisons sont conçues comme des mini-villes, les univers urbains et carcéraux ont tendance à se confondre. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, urbanistes et architectes appliquent les mêmes méthodes qui ont fait d'eux des acteurs principaux de notre flicage quotidien. En ville, la surveillance ne cesse de s'accroître, suivant le concept bien connu du panopticon de Jeremy Bentham. Tout espace doit pouvoir être vu. Tout délinquant potentiel doit avoir le sentiment d'être surveillé. Aussi, dans les nouveaux aménagements urbains, on évite les angles morts. On place des luminaires et les arbres, de façon à éviter les coins d'ombre. On installe des miroirs un peu partout, notamment dans les escaliers, et on réduit la taille des haies. La visibilité est maximale, et l'habitant est invité à s'improviser maton, à surveiller son habitat. Mais outre cette organisation de l'espace qui fait de l'habitant l'objet et le sujet de la surveillance, c'est la technologie de pointe même qui est fournie pour l'autosurveillance. C'est dans cette logique de co-veillance que les HLM proposent aux locataires un accès aux caméras de sécurité dans leur salon via leur télévision. En introduisant la démocratie chez Big Brother, on balaye de la main les accusations d'atteinte aux libertés. La surveillance est décentralisée et co-gérée. Évidemment, cette surveillance seule ne suffit pas. Parallèlement à ces mesures, l'espace défendable s'adapte pour favoriser la capture du délinquant. Les policiers urbanistes condamnent les coursives et suppriment les toits en terrasse. Ils installent des halls avec sas, des vidéophones et font disparaître les ornements des façades pour éviter l'escalade. L'immeuble se lisse, restent les pics anti-pigeons. Cette prise en compte de la sécurité dans l'aménagement de l'espace n'est pas un délire de quelques urbanistes, mais bien la nouvelle norme pour la ville. L'Europe devrait bientôt coucher tout cela sur papier, condamnant les haies du vieux continent à ne pas mesurer plus de 72 cm. Mais si l'espace défendable a d'abord été imaginé pour l'habitat social, ces méthodes s'appliquent sans mal à d'autres types d'infrastructures, en particulier aux équipements de loisirs. Ainsi, ce sont les mêmes concepts qui ont pu être utilisés lors de la construction du Stade de France à Saint-Denis. Même perdu au milieu de 80 000 personnes, impossible d'échapper à la surveillance des caméras mobiles placées sur le toit. La surveillance ne se limite plus à l'intérieur de l'enceinte, mais irradie l'environnement de l'infrastructure. L'équipement de loisirs ne se contente pas de s'auto-sécuriser, mais étend son besoin de sécurité à l'ensemble du quartier. Et puisqu'il est souvent un pôle qui s'inscrit dans des projets bien plus vastes, de construction de bureaux, de commerce, de logements, il se pose comme un facteur important de réaménagement de la ville.
Et donc, c'était une lecture d'un texte que vous pouvez retrouver sur Internet qui s'appelle « L'urbaniste, ce flic ». Et moi, je voulais juste émettre une petite nuance. Sur ce qui est dit dans le montage, enfin pas vraiment une nuance, mais parce qu'en fait cette partie-là du texte, elle pose vachement la question en termes seulement de surveillance et de sécurité, et pas assez en termes de business, quoi. C'est-à-dire que l'urbanisme, c'est aussi une manière pour eux de se faire encore plus de fric, de faire circuler les travailleurs encore mieux, les marchandises de mieux en mieux, etc.
Et de créer la spéculation et de faire tourner la machine.
De faire circuler la machine, quoi. C'est pas juste pour surveiller les travailleurs. C'est aussi une manière de faire de la thune. D'où l'intérêt d'essayer de les faire chier dans leur projet d'urbanisme, quoi.
Et donc, pour rebondir justement là-dessus, donc une petite anecdote. Bon, ça se passe pas à Marseille, ça se passe à Paris. Ils vont donc fabriquer le futur ministère de la Défense. Et son architecte n'en est pas moins que Nicolas Michelin. Donc Michelin, on ne présente plus. Hein. Donc bon, certes, les pneus, mais c'est aussi un gros vendeur d'armes, ce monsieur, de la famille, quoi, qui se font plein de thunes. Et donc il a été interviewé dans un quelconque journal, on s'en fout. Et certains de ses fans parlent de lui, alors, je cite, « Michelin est un combattant qui ne cède rien. Le métier d'urbaniste est encore plus difficile que celui d'architecte, parce que l'urbanisme, c'est faire la guerre. » Et un autre de ses fans le compare même au condottier. Alors, le condottieri, en fait, était juste les chefs armés, les mercenaires au Moyen-Âge. Voilà, c'était pour faire une petite anecdote, parce qu'il est intervenu donc dans énormément de villes. Donc, Bordeaux, Dunkerque, Lille, Metz. Alors, Lille, on se souvient de Lille 2003. Hein. Metz, Nancy, Tours, Grenoble. Où, voilà, il dit que, justement, il part en guerre, parce que donc il va faire le ministère de la Défense et donc le ministère de la Paix. Parce que la paix, c'est la guerre. Voilà, alors bien sûr, on ne revient pas, c'est des milliards d'euros, et ça sera tout ça partagé entre Bouygues, FH et, je vous la donne en mille, Bouygues, FH et
Vinci.
Vinci. Ouais. Vinci. Voilà, et ils finissent ce petit papier par « La haine de l'urbanisme n'est rien d'autre que la continuation de la guerre sociale sous d'autres formes. » Voilà, c'était l'intervention, quoi.
Voilà.
Pour continuer, je crois qu'on on arrive sur un autre petit montage, justement.
Ouais, sur un autre petit montage qui explique un peu c'est quoi ce projet Euromerde.
Donc Euromerde 1.
Ouais, qui ouais. Vient.
Premier volet. Mais bon, volet. Ça explique en fait.
La deuxième tranche, c'est la même, c'est dans ta
c'est
gueule.
La même. C'est juste les quartiers sont différents.
Montage.
Class War.
The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class. Working class.
Drowning dog.
Coming through, check, check.
Class consciousness.
It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I said we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. It's a class.
This is about
community.
This is about
power. And who has power and who doesn't?
This is about
class war.
Class war.
Class war.
Class. Marseille et sa région se restructurent. Les politiques urbanistiques, culturelles, économiques se rejoignent dans ce projet européen de faire de Marseille un des grands pôles de l'espace économique qu'est l'Europe. Les unes font le décor, les autres l'animation, et les troisièmes les mécènes. Toutes se retrouvant dans cette mise en scène des exploiteurs et autres profiteurs qui nous est sommé de subir, qui nous est vomi à la gueule. À l'image d'autres villes en Europe, la ville est restructurée. Le projet Euromed en est la concrétisation. De vastes zones et quartiers de la ville sont vidés de leurs habitants, ou vont l'être. pour y construire les infrastructures nécessaires dans le but d'accroître les capacités marchandes de la région, des travaux sont entrepris sur les accès ferroviaires, portuaires, aériens, routiers, énergétiques. Bureaux, parkings, écoles, commerces, espaces culturels et tout ce qui permet d'entretenir les plus nantis de ceux qui travailleront dans cette zone commerciale. L'urbanisme étant une opération de police jointe à une opération financière, les autres, les pauvres, la main-d'œuvre bon marché, les habitants voués aux expulsions, eux, sont déportés vers les zones moins convoitées par les spéculateurs.
No more can we ignore who we working for, who we fighting for, who we dying for. We all know the scores for the uppers to have more. Said you heard it before.
It's like my grandma used to say.
Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war war. It's a class war war.
Une brochure intitulée Marseille Info, spéciale Euroméditerranée, datée de l'automne 2007, est disponible sur Indie Media Marseille. Elle présente le projet Euromed et le replace dans un contexte qui dépasse largement la seule ville de Marseille. Les travaux, qui durent depuis 10 ans, ne sont qu'une facette du raménagement urbain et d'une restructuration économique au niveau européen. Dans cette brochure, on peut entre autres trouver la liste des entreprises y participant, des détails sur le périmètre Euromed et les différents autres projets, etc. Extrait de la brochure.
Depuis plus de 10 ans, Marseille est sommée de se mettre au pas ou au goût du jour. Des nouvelles technologies, du numérique, des télécommunications, etc. Il faut que cesse sa circulation chaotique, son système D et ses business, ses grèves récurrentes des boueurs et ses rues sales. Pour qu'elle devienne un lieu où le pouvoir se donne à voir, se représente, comme autrefois il y eut les cathédrales pour les autorités catholiques, les places royales pour la monarchie absolue, les préfectures et tribunaux pour la République. Une grande bataille de pacification, aseptisation, de reconquête s'est engagée dans le centre-ville.
De cette bataille, l'établissement public d'aménagement Euromed, qui supervise le projet sur une surface de 311 hectares entre Saint-Charles et Joliette, bientôt augmenté de 150 hectares supplémentaires vers Bougainville, en est l'outil et l'artisan, le char lancé à l'assaut de la ville. L'objectif est, afin que Marseille colle mieux au rôle de pivot économique de la région euroméditerranéenne, de redessiner la ville autour de nouveaux quartiers d'affaires et de fluidifier la circulation, avec le tramway et le Cyclocity par exemple. À l'échelle de la ville, c'est la même logique qu'au niveau régional ou européen. Dynamiser des pôles spécialisés et les relier entre eux. Quartiers d'affaires comme la Joliette, d'habitation, Panier, Belzins, déterminés en fonction de la richesse-pauvreté de ses habitants. Culturel, Belle de Mai, La Plaine, de commerce, rue Saint-Ferréon, Noailles. Voilà la ville saucissonnée, découpée en tranches, vendue au détail. Un espace égale une activité, un pôle, une compétence. Autant de projets en cours et partiellement réalisés qui rendront Marseille si parfaitement semblable à d'innombrables autres grandes villes. On a bien là un phénomène de normalisation, d'homogénéisation des villes, tous sur un même modèle, à chaque pièce du puzzle sa fonction.
D'où le tramway, les lignes de bus quasi réservées, comme entre les immeubles de standing de Bouygues, Grand Horizon, et le conseil régional, tandis que d'autres lignes sont démantelées, histoire d'être sûr qu'il n'y aura pas de débarquement d'importants dans le centre. Le tram, c'est l'ossature sur laquelle repose toute cette restructuration. Il achève de transformer la rue en simple axe de communication. Le Cyclocity participe pleinement à cette logique, circulation sous contrôle d'un point A à un point B, etc. Les angles morts, ce sont tous ces espaces qui échappent encore au regard des caméras de vidéosurveillance, gardent un peu d'opacité, des simples recoins et autres cages d'escalier. Ce sont les lieux de sociabilité, non encore totalement intégrés à la normalité marchande, comme le marché aux voleurs ou l'actuel J4. Pour venir à bout de ces territoires, ils parlent de prévention situationnelle. Il s'agit d'empêcher tout rassemblement, tout arrêt, attroupement, du simple fait de la configuration des lieux et de l'architecture, intimidante et pensée pour des interventions militaires et ou policières rapides et efficaces.
Dans les brochures, on nous vante la végétalisation et le rayonnement culturel. La végétalisation, c'est planter quelques platanes et 10 mètres carrés de pelouse sur lesquels il sera interdit de marcher et a fortiori de somnoler. Les vers et consorts trouveront sûrement leur compte dans cette transformation d'espace à vivre en nature morte. Un beau décor en fin de compte, plat et sans vie. Pour ce qui est de la culture, elle est toujours un bon alibi pour faire peau neuve dans un bout de quartier. Ici, des fouilles archéologiques, là un grand musée, font office de pierre tombale. La cité de la Méditerranée fera disparaître le patrimoine portuaire, 110 hectares, avec son musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, son multiplex, sa galerie marchande, etc. Tout un commerce de culture pour cadres dynamiques ou jeunes aspirants à l'être. Dans cette dynamique, le soutien des médias est indéfectible. Ils sont un rouage indispensable et ce n'est pas un hasard si Euromed compte parmi ses projets phares le pôle média de la Belle de Mai, avec le seul incubateur multimédia national qui devrait être le deuxième pôle français de production audiovisuelle et multimédia. Marseille et sa région sont un carrefour entre différents axes de circulation et entre des centres de production et de recherche. Porte vers les pays du Sud via la mer Méditerranée, porte vers le Nord et les pays de l'Est, la Suisse et l'Italie du Nord via la vallée du Rhône. Rien d'étonnant donc à ce que le programme de rénovation urbaine soit pharaonique. Marseille doit être à la hauteur de sa situation. Elle doit devenir une métropole rayonnante de la façade méditerranéenne de l'Union européenne. Euromed Marseille, c'est l'arme pour la métropolisation de toute cette région.
Alors juste pour rappeler que ce montage il a été tiré du site internet de Basse Intensité qui a été une émission de radio qui a sévi sur les ondes il y a quelques années. Elle représente et voilà et on va passer une petite musique binaire.
Putain, c'est la merde, il s'attaque aux crottes.
Euromer 2 et ses crottes. Après le cyclone Euromed 1, voilà la tornade Euromer 2, faite de deux tranches temporelles bien épaisses. Une première tranche saignante, 2011-2020, qui consistera en une destruction quasi totale, faisant table rase du passé. Puis une deuxième tranche, bien cuite, 2020-2030, où viendra alors le temps de la construction, une ville sortant de terre comme un champignon, sans racines. Et tel le village gaulois, à l'épicentre de ce tremblement de terre, sera sauvé du déluge, seulement le quartier des Crottes, petit quartier pittoresque au cœur de ce chantier gigantesque. La première tranche, et va raser tout autour sur 170 hectares, laissant les crottes dans sa merde. Les crottes est un petit quartier déshérité près des puces, où vit une population de 3227 âmes. Selon les chiffres, 4 possèdent le bac, peut-être de quoi traverser cette période trouble. 600 propriétaires possèdent et sont grassement invités à encaisser et partir. Ainsi va le rouleau compresseur du progrès. Quant aux 80% de locataires, pas très clairs, qui restent, il leur reste à subir avant de partir. Partir, oui, partir, mais pas tout de suite, car cette restructuration-destruction est faite premièrement pour gagner beaucoup d'argent durable. Alors durant, faire chuter le prix du mètre carré pour motiver les propriétaires récalcitrants et tout racheter. Ça, ils ont déjà commencé. Et tant qu'à faire affaire, garder ceux qui payent leur loyer pendant le temps où personne ne voudrait y habiter, entre bruit et poussière. Et jusqu'à ce que personne ne veuille plus y habiter, entre crime et châtiment. Pour enfin, une fois avoir fini sa restauration, y installer des gens bien, entre nature et progrès. Trois actes pour un exode sur 9 ans. 9 ans durant lesquels propriétaires, commerçants, entrepreneurs vont prendre ce qu'il y a à prendre, sans autre résistance que leur profit. Et aux locataires de voir leur quartier se délabrer pour peu à peu partir. Mais quand même, c'est vrai, aux crottes, les habitants aimeraient bien que ça change, que ce soit plus joli, plus propre, plus sûr. Et ça fait longtemps qu'ils le demandent. Mais ce n'est pas pour eux. Et surtout, le programme à partir de maintenant, c'est l'inverse. Pourrir et laisser pourrir à en faire partir. Abandonner, vider et reculer pour mieux faire sauter. Après et seulement après, y installer une population plus jolie, plus propre, plus sûre. Et voilà, la boucle est bouclée, comme le quartier. Alors ce cliché est tellement vrai et tellement simple que tout le monde le comprend et même l'accepte. Car contre cette énorme machine à découdre, les grains de sable que nous pourrions être seraient ensevelis sous des tonnes de gravats. Alors au lieu de ça, de mettre sur nos vies une chape de fatalisme. Ou rêvons un peu et d'imaginer impossible. Ou un quartier cerné de ruines et de chantiers, abandonné de tous, enfin de presque tous, délaissé des flics et des bourgeois, déserté par les animateurs sociaux et autres gestionnaires de la misère dans l'espoir du pire, serait récupéré par ses habitants, jeunes et vieux, chômeurs et voleurs, travailleurs de l'ombre et de la nuit, pauvres et pauvres, sans plus payer. Ne plus payer et s'organiser dans un quartier vidé momentanément de ses entrepreneurs, constructeurs, spéculateurs, qui se rempliraient de squatteurs, jeunes et vieux, chômeurs voleurs, travailleurs du jour et de la nuit, prolétaires précaires, et qui ensemble, de résistance en solidarité, défendraient le quartier, le temps d'une lutte, d'un quartier retranché, interdit aux flics et aux huissiers, aux balances et profiteurs, aux bourgeois et bohèmes. Enfin écrire notre histoire dans notre quartier. Avant qu'ils ne nous chassent, bien sûr, avec leur horde de porcs, hélico à l'appui. Non plus comme du bétail domestiqué, mais comme des bêtes sauvages. Parce qu'il ne faut pas non plus se faire d'illusions, ils nettoieront les crottes. Mais en attendant, peut-être pendant 9 ans, au-delà de leur avoir résisté, on aura vécu quelque chose que l'on n'aura pas mendié, que l'on ne pourra pas nous voler. Alors soyons optimistes. Haussmann s'est planté avec Napoléon, Hitler avec Pétain. Parions que Sarko va se planter avec Gaudin et que marcher sur les crottes ne leur portera pas chance.
Et voilà, pour le coup, on va vous passer un texte, un montage qui s'appelait « Avis à la population » qui avait été fait en direction de Euromerde 1 et qui marche très bien pour Euromerde 2 et donc qui avait été fait en 2007. Ça s'appelait « Avis à la population » et ça avait été fait par une chaîne.
On aime notre quartier parce qu'il est populaire et qu'il nous ressemble. On ne veut pas de leur éclairage puissant et de leurs caméras, de leur propreté et de leur police. Tout leur programme de réhabilitation n'est pas pour nous. Ils passent toujours par nos expulsions. Ils nous prennent tout, nous coupent tout, créent la peur en faisant régner un climat de répression étudié, nous montant les uns contre les autres, laissant place à la délation, à l'isolement et surtout à l'envie de partir. Car au-delà de leur fierté d'avoir recolonisé un quartier, ils se sont partagés des sommes d'argent colossales.
D'abord, ils choisissent un quartier populaire de la ville et l'achètent au meilleur prix. Puis ils cherchent primo les locataires malléables à qui ils payent leur départ. Le quartier commence à se vider. Ils le laissent se dégrader, l'abandonnent, pour enfin tenir des discours hygiénistes contre l'insalubrité et ses dangers pour les enfants et les familles. Ils font des mises en péril, expulsion à la clé. Et de ces immeubles vides arrivent les squats qu'ils laissent ouvrir pour ensuite les stigmatiser. La peur s'installe, le quartier meurt. Ils tentent à nouveau de convaincre les derniers irréductibles à la carotte ou au bâton. Le quartier devient une zone mal famée, désertée, de non-droit comme ils disent. Enfin, les jours en douce en donnent un cœur joie. Trop, c'est trop. Et il faut faire quelque chose. Et les politiques de répondre qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. Alors sonne le glas, ultime vague de répression contre les récalcitrants et tous les résistants. La réhabilitation peut commencer. Destruction, construction, bruit et poussière, laissant la place à un quartier sans racines, bientôt docile et aseptisé. Et là, ils vont venir parce que ce n'est plus ça, les sombres, les premiers branchés, les bobos, et ça spécule. Les prix sont deux fois plus chers qu'avant, mais ça reste bon marché pour le centre-ville. Enfin, ils remplissent avec des artistes, des architectes, des sociologues, des intellectuels, des socialistes, bourgeois bohèmes d'aujourd'hui, bourgeois tout court de demain. Fini la bohème, il reste là, habitant idéal du centre-ville. Cultureux et puant, politiquement correct, se gargarisant d'habiter un quartier populaire, qui n'est plus populaire d'ailleurs. Mais à utiliser toujours les mêmes méthodes, il se pourrait bien qu'un jour, on ne se fasse plus baiser, et un jour revendiquer un quartier qui protégera ses voleurs, qui récupère ce que les riches nous ont volé, et où l'on ne parlera pas avec eux, on parlera avec eux et non plus à la police. Un quartier qui protégera ses clandestins et ses évadés, parce que la solidarité n'est pas un vain mot. Un quartier qui protégera ses hors-la-loi et toutes ses activités parallèles, et où enfin l'on reparlera de partage. Un quartier qui défendra ses squats, ses zones libres, par tous les moyens nécessaires. Un quartier à nous, qui nous défende, où l'on se sentira en sécurité, sans flics et sans caméras. Un quartier populaire qui nous ressemble. Et où le but de tout ça, ça ne serait pas vivre bien dans ce monde. Il y a trop de misère. Ni même d'essayer de l'arranger, il n'y a vraiment rien à en tirer. Mais de se préparer à sa destruction, et plus encore, à commencer à construire le nôtre.
Oh,
on continue donc sur Marseille et sa restructuration urbaine avec le à côté donc de ce projet Euromed. Il est couplé de Marseille 2013, qui est donc une vaste entreprise culturelle pour une espèce de volet gentil en fait, pour volet gentil, c'est-à-dire pas les CRS et pas les flics.
Non,
là, on apporte la guimauve et la culture et tout ça pour nettoyer définitivement le centre-ville de sa population d'indésirable. Cette fumisterie. Et donc, à cette occasion, on va vous passer un petit montage sur Marseille 2013 qui explique un peu mieux ce que c'est.
Quand une rangée de CRS fonce sur la foule, le plus grand nombre sait encore comment réagir. On fait des barricades de fortune pour ralentir leur marche, on ramasse quelques pierres, des bouteilles, et on se prépare à courir. Mais quand c'est un Lille 2004, capitale européenne de la culture, ou un Marseille 2013, culture européenne capitale, qui nous tombe sur le coin de la gueule, nul ne sait trop comment s'y prendre. Chacun devine que c'est un sale coup qui se prépare. Et qu'il y a donc une parade à inventer. Mais laquelle et contre quoi ? L'idée qu'ici, le capital n'avance plus à coups de canon, mais précédé d'une milice dansante, bruissante, bigarrée d'artistes en costume, et de branchés sous exta, ne nous est pas encore familière. Quand nous entendons le mot culture, nous ne pensons pas encore à sortir notre revolver. Voilà, alors du coup, une petite présentation rapide des objectifs de Marseille 2013 Culture Capitale. De toute façon, alors à la lecture rapide du projet, les appels à projets, c'est uniquement de... L'art va servir de faire valoir à une économie. Bon, il y a plusieurs choses que comporte ce Marseille 2013, mais notamment de faire valoir d'une économie. Et donc du coup, il va y avoir une espèce de valorisation de certains... commerce de certaines zones de Marseille, alors y compris des cafés et tout le soin de soin. Des cafés, donc le tourisme, les marchés tout aussi divers, le port, tous les bâtiments liés à la production industrielle ou scientifique. Donc tout ça, c'est des thèmes qu'on propose aux artistes pour développer leur propagande, enfin pour pouvoir permettre ensuite une pacification et plein d'autres choses dont on va parler ensuite. Et il y a un deuxième pan, comme ça en disant rapidement ce que le programme de 2013, il y a un deuxième pan qui est hyper important, c'est ils vont nous dire qu'on est tous artistes, donc des artistes vont animer les gens, les artistes animateurs, et on va tous avoir l'impression d'exister pendant un an parce qu'on nous fera faire de la peinture en atelier. Et voilà, et donc ça gueule dans tous les coins, ça pète, il y a des séquestrations, il y a des manifs, il y a de la misère partout, mais bon, on va nous faire nous exprimer sur nos sentiments et les choses très très importantes de la vie.
Expression libre pendant un an, après ce sera terminé.
Voilà, expression libre après c'est...
Expression libre financée et contrôlée.
Voilà, du coup... Un des pans importants de 2013, c'est que ça va servir à de la pacification sociale.
Ouais. Mais il y a un petit extrait de quelques bonnes raisons de s'opposer à Marseille 2013 qui a été fait aussi en relation avec le Lille 2004. Et on va commencer du coup par ce petit montage.
Ce processus de dépossession des espaces vivables ressemble à s'y méprendre à ce qui se joue depuis quelques temps déjà dans le quartier de la Belle de Mai, par exemple. Si nous n'y faisons rien, le titre de capitale européenne de la culture sera le coup de grâce asséné à ce quartier, déjà pris en tenaille par l'extension du périmètre Euromed et la Friche. Leur cité radieuse serait une ville métisse et cosmopolite. Nous ne voyons que rafle la répétition et contrôle aux faciès, à Noailles, à Belzins, à la Porte d'Aix, etc. Ils font l'apologie, non sans cynisme, du nomadisme, des chemins de traverse. Ce que nous connaissons, c'est la mobilité du travailleur, de son travail à chez lui en passant par la case consommation. Et encore, l'enfer des déportations de sans-papiers. Sur la méthode, ils ne parlent que de mobilisation, de la pleine participation des citoyens, des 75 000 associations culturelles de la région et de l'OM. Chacun devrait se faire le collaborateur travailleur gratuit de la réussite de leur projet. Qui en faisant un petit film avec son téléphone portable, qui en dessinant sur un petit drapeau blanc distribué à chaque citoyen par voie postale.
Pour camoufler les grands travaux de restructuration des villes populaires, pour déguiser ce grand nettoyage, les pouvoirs politiques ont-ils besoin de se justifier ? Peut-être que non. Mais là où flics et bulldozers ont soulevé haine et colère, l'art finit de convaincre du bien fondé de ces changements. Cet ambassadeur idéal, enrobé de valeurs dont aucune politique d'envergure ne pourra jamais se réoler, a une triple fonction. Marseille 2013, en étant la vitrine des grands projets comme Euromerde, lui transmet les valeurs qui, dans l'imaginaire collectif, sont attribuées à l'art et aux artistes, c'est-à-dire la liberté, l'ouverture d'esprit, l'échange et j'en passe. Les artistes sont la caution liberté de ces grands travaux. Ils donnent du crédit à leur discours sur l'échange. L'autre volet de cet outil culture, c'est que les messages vont passer mieux encore que dans un discours politique. Tous les sujets qui cachent des enjeux politiques seront abordés. Quelle meilleure manière de faire de la propagande que l'art ? N'a-t-il pas toujours été instrument de propagande des pouvoirs politiques qui se planquent derrière un mécénat désintéressé ? C'est tellement vrai que même la critique a sa place, mais juste celle qui ne va pas trop loin, qui critique mais qui finalement alimente le business. La pollution, c'est sale, le tri des déchets, c'est pas mal. Ouais, à la finale, c'est toujours moi qui pédale. Et puis, comment se méfier de celui qui n'a pas de couleur politique, qui n'appartient à aucune classe, qui lui-même est désintéressé ? L'artiste représente cet être en dehors des conflits sociaux, qui serait au-dessus de sa condition. La construction d'une image esthétique de la société ne fait qu'enfouir la merde sous une couche dorée. Elle permet peut-être, sûrement, d'oublier les conflits profonds de cette société hideuse pour lui donner une mine épanouie et harmonieuse. La ville est pacifiée. Mais ça ne peut pas marcher. La misère et les injustices ne disparaissent pas avec la consécration d'une ville en capitale européenne de la culture, ni avec des grands projets de restructuration urbaine. Ce qui change, c'est l'accentuation des contrôles à tous les niveaux de nos vies, mais dans une ville pacifiée par les couleurs joyeuses de la culture et de l'art. Place à la propagande de cette démocratie militaro-culturelle. Tout le monde y voque du feu.
Quelle organisation !
Pour nous, le drapeau blanc est et restera symbole de reddition. Face à cette volonté de pacification, de nous soumettre à des intérêts qui sont contraires aux nôtres, nous ne voyons qu'une chose à faire. Brûler le drapeau blanc et déterrer la hache de guerre. Premier acte. Ô, toi, habitant, culturel-le de tout poil, déserte, ne te laisse pas séduire par l'appât du gain, renonce à cette collaboration. La Libye culturelle ne doit pas aveugler. En embuscade, il y a toujours une armada d'entrepreneurs, de cadres, de flics et de touristes. Un tel événement, et il en est de même pour les JO et autres America's Cup, ne sert qu'à faire passer la pilule de la destruction de nos vies à grands coups d'infrastructures, de flicage, d'expulsion, etc. Ici, l'opération se fait avec les armes culturelles de dialogue et de collaboration, comme ils disent. Et ça ne fait que commencer. Face à l'avis de mobilisation générale, il ne suffira pas de déserter. Passons dans les rangs ennemis. Car cette candidature, ce n'est qu'une bataille de plus dans la guerre de basse intensité qui nous est livrée, à Marseille comme ailleurs. Que crève la culture.
Je dois vous dire ici quelque chose d'extraordinairement important. Là aussi, vous voyez l'usage abusif des mots, c'est la transparence. Plus rien. Je dois franchir maintenant une étape qui n'est pas facile à dire. C'est une machine infernale, mais qui est extrêmement importante pour vous. C'est ça la transparence. C'est presque la dictature. Plus rien. Plus aucun. Aucune norme sociale, aucune norme environnementale. Plus rien. Plus rien. Plus rien.
Avoir chacun un mensonge différent pour arriver à être tous pareils. Lifter, tout comme pour faire disparaître les marques du temps. Faire croire que ça va de mieux en mieux. Faire disparaître tous les conflits. Avec une évidence commune. Le beau, le beau. Fini la guerre, la haine, la violence, la colère. Fini la misère, la saleté, la mendicité. Fini la protestation, la prostitution, la délinquance, l'errance. Vive la solidarité, la fraternité, la mixité. Oui, mais fini de quelle guerre ? De la guerre sociale. Oui, fini de quelle haine ? De la haine de classe. Oui, fini de quelle violence ? De la violence du peuple. Et fini de quelle colère ? De la colère politique. Mais c'est pas fini de leur guerre civile, de leur haine raciale, de leur violence d'État et de la colère policière. Et ce n'est pas fini de la prostitution, de la délinquance et de l'errance, mais c'en est fini des putes, des délinquants et des marginaux. Quant à la solidarité, la fraternité, la mixité, ils n'en ont même pas un échantillon sur eux, comme disait l'autre. Alors que nous, tous les jours, on le pratique déjà et ils tentent si souvent tant qu'ils peuvent de nous en empêcher. Alors disons oui, ok, fini toute cette laideur. Alors le beau, c'est quoi ? Le beau, c'est l'art. L'art, c'est rendre beau. Oh, ils sont beaux, ces réverbères. Oh, ils sont beaux, ces trottoirs. Oh, ils sont beaux, ces magasins.
Oh, elles sont belles, ces centrales nucléaires, etc. Même les policiers trouvent leur uniforme beau. Mais le réverbère n'est pas là pour être beau. Il est là pour nous surveiller. Et le trottoir n'est là que pour laisser passer humains travailleurs et humains acheteurs. Et les magasins ne sont là que pour vendre et revendre. Et des centrales nucléaires, que dire, entre menaces et menaces. Alors cette fois, c'est le tour de Marseille. Oh, il y a de quoi être inquiet. Mais on devrait tous aimer leur fête dans la rue. Un coup de peinture générale sur la ville, un petit coup de Karcher au milieu et la merde dans les coins. On reçoit du monde, bordel. Fini les coudes sur la table. Il va falloir reprendre les bonnes manières et avec le sourire. Et on sera tellement fiers de Marseille. On sera tellement fiers de Marseille qu'on n'osera même plus la salir. Alors la merde, elle restera dans les coins. Enfin. Ça n'aura pas été simple, mais en fait, quand l'artiste précède le flic, ça va beaucoup plus vite. Alors un Jamel Debbouze qui appelle au vote, un Zidane qui appelle au calme, ou un clown qui nous fait rire de l'ennui, en fait plus pour leur paye sociale que 10 bataillons de CRS matant tant d'émeutes. Bâton, carotte, contrôle, autocontrôle, contrôle, autocontrôle.
Marseille est à la bourre dans la course à la restructuration urbaine. Marseille ne ressemble pas encore assez au modèle de métropole glacée sur lequel toutes les villes s'alignent.
Pour devenir la ville musée, la ville de venture, territoire de vente et d'achat, propre, lisse et civilisée, il faut mettre un coup d'accélérateur, un coup de Karcher.
Alors voilà la bonne idée, l'alibi, le grand projet. 2013, Marseille sera capitale européenne de la culture.
Le capitalisme se déguise. Il met son costume de scène. Il est ici incognito.
Il parle de tolérance, de pluriculturalité, de solidarité, de participation citoyenne et nous décrit une ville d'échange et d'accueil au cœur de la Méditerranée.
Comble de l'ironie, le métissage culturel, il est au centre de rétention. Il sera expulsé demain par bateau. Les pauvres crèvent toujours la dalle en coulisses.
C'est pas grave.
The show must go on.
De toute façon, il n'était pas au programme.
Le discours culturel enrobe l'esclavage quotidien d'une guimauve de cohésion sociale, de mixité culturelle et de dialogue citoyen.
Nous ne voyons là qu'une tentative d'imposer soumission des corps, uniformisation des esprits et neutralisation des conflits.
Les mots du pouvoir sont aussi truffés que le cheval de Troie. Et quand le cheval entrera dans Marseille par la mer, nous ne serons pas le public muet, regardant tranquillement l'enterrement coloré et en musique de nos quartiers.
Nous ne serons pas non plus des figurants passifs, reste folklorique de la contestation politique, consommateurs d'une ville prison quadrillée de flics et de caméras, ni prisonniers de magasins débordants et de galeries tapageuses.
La culture dominante laisse juste ce qu'il faut de subversion pacifiée pour que chacun se sente exister en tant qu'individu en dehors de tout rapport de classe.
On restera pas calme devant ce spectacle démocratique et policé.
Des tomates d'abord.
Des caillasses ensuite.
The show must go off.
The show must go off.
Donc vous êtes toujours sur ND Chaîne 88.4, l'émission arrive à sa fin et on se retrouve la semaine prochaine où on parlera encore de Marseille et de un peu ce qui se passe un peu partout.
Marseille, Euromer 2. Blanchir les murs de nos quartiers et détruire l'ancien, c'est détruire une histoire, des histoires de vie, de lutte, un réseau social ancré dans un quotidien et non pas sur une toile imaginaire. Alors ils veulent s'interposer comme seul intermédiaire possible entre nous. Et pour ça, ils fabriquent de la peur dans leur quotidien, non pas populaire mais populiste. Un coup c'est le vendeur de shit, après c'est le rhum et le roumain, et apparemment le comorien est en ligne de mire. Parfois le squatteur, le voleur, le buveur dans la rue chez les bobos. Alors ils nous envoient leur horde de képis et de promoteurs prêts à acheter nos vies. Le rapport de force, certes, il n'est pas en notre faveur. Et malheureusement, ils y arriveront, quoi qu'en dise le folklore marseillais. Mais cela ne nous empêche pas de semer des grains de sable dans leur rouage, et parce qu'au fond on les emmerde, et comme on ne manquera pas une occasion de leur dire. Leur monde n'est fait que de barreaux et de contrôles, nous leur opposerons notre âge de liberté. Haine des chiennes, on se retrouve la semaine prochaine.
Une vie sans histoire est une histoire sans vie. Peut-être que la balle est dans notre camp. Il y a du Mistral dans le capital, le bateau tangue mais ne coule pas. Le capital est fragile mais il est agile.
J'adore ce que tu fais.
Moi aussi j'adore ce que tu fais. Ciao ciao, à la semaine prochaine. C'était une des chaînes. Contrairement à ce que vous pouvez croire, on n'était pas pété. Hein.
Les gosses que s'ils voyaient un flic, il fallait qu'ils changent de trottoir. D'ailleurs c'est simple, j'ai toujours fait ça.
Bon, moi j'ai plein de copains qui se font tuer par des flics. D'une balle dans le dos.